There is a Crack in Everything est une exposition qui ouvrira ses portes en janvier 2021 à la galerie Florence Levy à Paris. J'y montrerai des photographies et des peintures. Les photographies ont été faites en 2016. L'exposition est construite autour de leur redécouverte récente, puis de l'assemblage de pièces réalisées en 2019 et 2020. En 2016, donc, accompagnée d'un groupe de chercheurs et d'amis, j'étais allée arpenter deux barrages de haute montagne dans le Valais suisse, la Grande Dixence en premier, puis dans une vallée adjacente, le barrage de Mauvoisin. J'étais fascinée par l'objet, sa forme, prouesse de la modernité, sa fonction, son ambiguïté environnementale, et aussi par sa puissance métaphorique. Nous regardions un objet de pur fantasme de la catastrophe. Tout était question de tension, de rétention, de menaces, de possibles fractures, de débordements. Quand est-ce que la construction craque? Qu'en est-il de la résistance des matériaux, de celle des humains, du monde vivant? Quelle pression peut-on exercer sur un être avant qu'il ne craque? Ou sur une communauté, sur un peuple? Quand surgit l'étincelle qui allume le feu? Quand survient la révolte? La redécouverte de ces images m'a replongée dans l'année 2016. Nous étions en pleine campagne électorale de Donald Trump, de celle de Bolsonaro, les murs s'érigeaient dans les discours et aux frontières. J'ai ensuite contemplé les 4 années passées, la tension accrue tout au long du chemin, la succession de failles, de débordements, de feux allumés, des plus dévastateurs, bien réels ceux-là, aux plus émancipateurs. Me too, Black Lives Matter. J'ai souhaité, dans le cadre de cette exposition, inviter 4 autrices à venir lire leurs textes. Clara Schulman, Ellen Giannichini, Marion Vasseur-Ralluy et Rosana Puyol, cette dernière étant éditrice aussi. Les textes d'Hélène et Clara sont parus en 2019 et 2020. Ceux de Rosana et Marion sont inédits. Ces récits et poèmes, le rapport à l'écriture et aux liens établis dans le processus de travail, s'inscrivent selon moi dans ce que le monde contemporain développe de plus bouleversant. Ils relèvent d'un acte de résistance aussi intime que collectif, qui d'une façon ou d'une autre semble avoir mené chacune d'elles, les autrices, à faire tomber un mur, à fracturer un barrage. There is a crack in everything, that is how the light gets in, a chanté Leonard Cohen. Ces 4 écritures, ces 4 voix font l'objet d'une série de rendez-vous radiophoniques. Ellen Giannichini est écrivaine et critique. Ses recherches portent sur les rapports entre texte et image. Elle enseigne la théorie de l'art contemporain et la création littéraire à l'École européenne supérieure de l'image de Poitiers et Angoulême. Depuis plusieurs années, elle développe un travail d'écriture en collaboration avec des artistes de la scène contemporaine. Hélène lit ici un extrait de son premier roman, « Voir de ses propres yeux », paru aux éditions du Seuil en janvier 2020. L'ouvrage est présenté ainsi. C'est l'histoire d'une femme entourée de défunts qu'elle a aimés et dont les noms s'effacent. Pour réinventer son lien à ses présences, elle choisit de les inscrire dans une histoire, celle de l'art et des sciences, qui abolit leur singularité, mais permet de s'adresser à eux. L'anatomie et son cortège de figures sont les supports d'un récit qui explore les possibles de la mort, son extraordinaire pouvoir d'invention et ses liens étroits avec l'image.
Juste avant les premiers morts et balles qui les prolongent, il y a ces moments heureux dans cette ville près du lac Léman avec quelqu'un que j'aime. Quand nous sortons du musée de la main, enthousiasmés par ce que nous venons d'y découvrir, nous ne rentrons pas chez nous, pas encore. Nous descendons vers le centre-ville pour prendre un train qui va à Genève d'abord, puis jusqu'à Marseille. Sortie de la gare Saint-Charles, je bois un café dans la lumière, près de l'escalier vertigineux qui donne sur le boulevard d'Athènes. Une partie de ma famille a vécu ici. Je retrouve ce bouillonnement si particulier des villes portuaires, l'ouverture et la rudesse, l'intense vitalité des rues, la cacophonie des voitures et la mer qui apparaît quand nous reprenons la route. Nous filons en direction des Alpes et je vois la Provence se transformer avec l'altitude. À chaque lacet de route, elle devient plus aride et sauvage. les champs rencontrent des montagnes bleues aux sommets enneigés et la lumière s'aiguise. Quand on se gare enfin, je suis étourdie par toutes ces heures de voyage, mais heureuse de retrouver une maison aimée où je m'installe pour quelques jours. C'est le seul lieu devant lequel j'appose un possessif, ma maison. J'y ai vécu mon premier été. Il contient l'essentiel de mes souvenirs d'enfant. Je ne me lasse jamais d'y arriver, de ce moment où, en descendant de voiture, je reconnais les odeurs et les bruits, la pente du toit rouge sombre, les volets attaqués par le froid de l'hiver. Depuis la route, j'aperçois la façade percée de 5 fenêtres et étrangement dépourvue de portes. Pour les passants, cette maison est absolument close. Moi seule connais l'entrée cachée, à l'arrière. Un grand cyprès lance son feuillage au-dessus d'un tronc maigre et sec. Il a poussé là, austère et parallèle aux arêtes des façades. En descendant vers la terrasse, les pierres, les sommets s'agencent à nouveau, juste pour moi. Ce lieu est traversé par la connaissance arbitraire de l'enfance, où le familier se diffuse aux choses, aux arbres, aux carreaux cerclés de bois, comme si j'avais assimilé la vallée, sa lumière ramassée sans pour autant pouvoir nommer plus de 2 plantes, sans connaître les chemins qui la dessinent. Le premier soir, nous dormons tôt. La nuit, l'altitude nous épuise toujours. Le matin qui suit mon arrivée, la maison tout entière se met à claquer. Les portes, les battants des fenêtres se ferment et s'ouvrent en saccade. Un vent de plus en plus puissant souffle entre les arbres, fait rouler les plantes et les feuilles, précipitant à l'intérieur de la maison une poussière de chemin sableuse et ductile qui se loge entre les lattes des parquets. Les cendres et les brindilles restées dans la cheminée se lèvent pour recouvrir le tapis du salon et plonger la pièce dans une lumière grainée de vieilles photos noires et blancs. L'air n'est pas lourd, comme avant les spectaculaires orages d'altitude, pas un nuage, mais une grande douceur bleue, un ciel limpide. Je suis saisie par l'étrangeté de cette tempête de plein soleil, excitée par ce tumulte de poussière et les bourrasques qui remuent le paysage. Toute la matinée, le vent gagne en intensité, faisant rugir la maison, siffler les couloirs. Dans la cuisine, nous regardons les arbres qui s'agitent, puis nous faisons l'amour dans les craquements qui continuent longtemps et auxquels je finis par m'habituer, protégée par toi et la maison. Vers le soir, le vent tombe. Nous ouvrons la fenêtre du salon. Je me décide à sortir vaguement inquiète. Je longe les murs extérieurs, l'épaule appuyée contre les pierres de la façade. Les herbes sont encore couchées, le pré jonché de rameaux et de débris d'écorce. À côté de la porte, en travers du chemin, le tronc du grand cyprès est cassé, ses branches éparses au sol. Je me sens brusquement mal, je dois m'asseoir. Une peine effroyable me cloue sur place ce jour-là. Ce n'est qu'un cyprès, je sais, un vieil arbre qui a poussé là, mais il était le premier qualificatif de cet endroit, ma maison au cyprès. Tombé, il emporte un peu du lieu et de sa mémoire avec lui. Il n'était pas le seul à avoir cédé. Comme je devais le constater le lendemain, le vent avait renversé 7 arbres en tout. Des mottes de terre grasse et verticale, encore attachées à leur tronc, hérissaient les champs et les sous-bois. Le cyprès et les autres s'étaient écroulés pendant la nuit sans que je m'y attende. Mais cette chute ne signifiait pas qu'ils étaient morts à l'instant où leur fût avait cédé. Ils l'étaient déjà partiellement. Ce n'était donc pas l'irruption de la mort, mais son aboutissement. Rares sont les cellules encore vivantes dans les troncs. Ces morceaux que nous pouvons enlever avec nos doigts et qui écaillent leur bois en attestent. Et c'est là le génie des arbres qui ont si bien domestiqué la mort qu'ils s'emparent de leurs tissus inanimés pour en faire de la hauteur, de la force et de la durée. Leur écorce les protège, renforce leur verticalité, tandis que nous sommes incapables, nous, de vivre avec un corps à demi-mort, de tirer notre force de l'effondrement. Quand vous êtes tombé à votre tour, c'est que la destruction tramée par votre corps avait gagné. Il vous a été impossible de composer avec elle. Je tente un regard rétrospectif sur ces quelques jours. Je me dis que c'est comme ça que le monde a commencé à tomber. C'est arrivé par les arbres, par un vent inattendu surgi dans un ciel clair. Le cyprès n'est pas un détail, il est votre annonce. Comprenez-moi bien. Avant vous, alors que vous continuiez à marcher, à vous tenir debout, à m'appeler même, dans cet endroit intime entouré de montagnes, les arbres se sont mis à tomber, et avec eux s'est abattue sur moi une peine nouvelle, les prémices de ce qui m'attendait. En un sens, je peux dire que j'ai été prévenue. J'ai même appelé l'un de vous qui devait bientôt mourir et décrit au téléphone les ramures du cyprès sur la petite route. C'est drôle, en y pensant, j'ai l'impression d'avoir raconté son décès à l'un de vous. Mon inconscience, puis le surgissement, la peur, la secousse quand j'ai vu. Et ça ne s'est pas arrêté là. Tout allait vers le sol, tout devenait cadavre. Quelque temps après la chute du cyprès, je quittais la maison, émue de savoir que mes arrivées ne seraient plus les mêmes, que la façade serait intacte, mais dépourvue du tronc noir et du feuillage qui projetait ses ombres dans les chambres. Fin des vacances. Je devais reprendre le travail. Je suis tentée de dire que je me sentais étrange déjà, mais je n'en suis plus certaine. Je veux rester au plus près des événements, ne rien déformer. Les arbres, le TGV vers Paris, oui, je m'en souviens, mais ensuite je ne sais plus. Tout devient confus. Incarner me permet de reconstituer les faits avec une précision photographique. Impossible pourtant de retrouver un jeu dans ma notation mécanique des événements. 10 jours après mon retour, donc, mon portable sonne à 19h35. Il me faudra plusieurs autres coups de fil, l'entremise d'un lieutenant de police est exactement 9 minutes pour me retrouver face à la nouvelle. Un mort, adoré. Je suis instantanément pulvérisée. Suivent le flou et les démarches, l'institut médico-légal qui tremble avec le métro, la douleur plus grande que mon corps qui doit l'enclore, puis des semaines aveugles et pas très intéressantes, je crois. Les récits qui pleuvent, les anecdotes qui corrompent ma mémoire, une voiture qui roule avec toi couché et mort derrière, puis des mois encore, la respiration qui revient, la fin d'un amour aussi, cette personne avec qui j'étais à Lausanne évanouie de ma vie. Les disparitions rendent radicales, forcent à partir et à tout remettre en cause. La solitude que je réapprends, les repas pris seuls dans un appartement plus étroit, les nuits à tourner dans le grand lit. Et un nouvel appel, un autre choc. 2 morts. J'espérais à ce moment-là qu'ils ne seront pas aussi nombreux que les arbres. La routine, elle, ne s'arrête pas. En un sens, elle me tient. Le réveil, le travail, l'affairement, puis le retour chez soi encore et la fin de journée qui s'abat comme un bloc. Le soir, j'attends de ne plus distinguer les objets pour appuyer sur un interrupteur. Les grandes obliques bleu-noir montent. La nuit commence par moi et passe ensuite aux rues, à la cour étroite de l'immeuble dans laquelle pousse un marronnier toujours debout qui s'allume dans la fin de journée. Quand l'arbre devient noir, je me rabats sur une lampe et sa chaleur électrique. J'aime ce lent affaissement de la lumière, les arbres qui flambent avant de s'éteindre. Les semaines passent, les images se multiplient sur le mur au-dessus de mon bureau, je ne cesse d'en ajouter, de les déplacer pour que quelque chose se tende et advienne entre elles. Le portrait de Vézal est pris dans une nuée de ventre ouvert d'esquisses d'organes. Une idée arrive, je crois. J'attends qu'elle soit nette pour tenter de la dire. Je vis à nouveau seule. Les promenades de Lausanne avec celles que j'aimais, les moments passés dans la maison des montagnes me semblent loin, mais toujours beaux quand ils m'apparaissent. Parfois je rejoins des amis, il m'arrive de rester la nuit entière. Je me souviens d'une discussion avec l'un d'eux et de son regard affolé quand, après plusieurs minutes de monologue, il me dit que j'étais incompréhensible. Il avait raison. Rien ne me tenait vraiment. Le vide devenait insupportable, il a brisé ma forme. Vous n'êtes encore que des absents que je compte. Je me demande souvent ce que vous devenez matériellement, où sont vos particules et ce que trament vos dépouilles. Dans ces mois flottants, j'achète le livre de la photographe Sally Mann, What Remains. Elle a réalisé sa série dans une body farm, littéralement ferme des corps ou des morts, de l'Université d'anthropologie du Tennessee. Un terrain boisé de plusieurs hectares dans lequel des cadavres humains sont disséminés pour permettre à des scientifiques d'étudier leur décomposition, ce dont le cercueil, qu'il soit brûlé ou enseveli, nous protège. L'observation minutieuse de la corruption des chairs sert à alimenter une vaste base de données médico-légales. À quelques kilomètres de Knoxville, cette body farm a été créée au début des années 1970 par un certain William Bass, anthropologue judiciaire, qui appelait aussi l'endroit le terrain de mort, fournissant ainsi un imaginaire sur mesure pour une flopée de séries policières et de romans noirs. des centaines de personnes y disparaissent littéralement chaque année, offrant aux chercheurs toute la gamme des lividités, des affaissements, des gonflements. L'idée me met plutôt mal à l'aise. Ces gens sont nus, scrutés jusqu'à l'effondrement dans leur devenir charogne. Salimane y a passé plusieurs jours. « Vous devriez voir les couleurs », a-t-elle déclaré un journaliste. « Elles sont vraiment magnifiques. » Je veux la croire, mais j'ai un doute. On la connaît, la beauté paradoxale de la charogne. Reste à savoir si elle se vérifie. Les tirages de Salimane, eux, c'est certain, sont très beaux. Presque trop. Denses et précis. Mais je ne sais que faire du cadavre de cette femme, énorme et nue, semblable à une roche plissée. Et que penser de cet homme de profil dans une clairière ? Une branche sort de son dos à la peau épaisse. Son visage s'efface. Il a des cheveux encore, mais son nez, sa bouche, ses yeux sont pris dans une coulée végétale. Je regarde, page après page, les corps dégradés qui se mêlent aux feuilles, les plantes qui grimpent sur les carcasses solitaires. L'artiste a raconté le moment de la prise de vue, les odeurs bien sûr, mais aussi le bruit. Des soupirs, dit-elle, les chuintements et l'effervescence. C'est la chute in extenso. Mais cette rencontre avec les images de Salimane ne remet pas mon monde d'aplomb. La série est frontale, mais elle esthétise aussi le pourrissement et en diffère l'horreur. Les lambeaux de chair sont mis à distance, et si ces photographies peuvent dégoûter certains, elles ne nous donnent pas réellement accès à cette vie post-mortem, celle-là même que les scientifiques viennent observer sur les carcasses pleines de larves et d'insectes dans cette body farm. L'idée que de petits organismes produisent du vivant dès que la mort advient est belle pourtant. Je la trouve consolatrice. La mort ne me semble plus définitive. Vous êtes dissous mais renouvelés. Je pense aux coléoptères et aux diptères qui vous habitent et vous emportent. Vous vous transformez avec eux, des ailes vous poussent, vous apprenez à voler. Cette mutation de la matière inerte en essaim vivant me fait presque remettre en cause mon idée d'être incinéré. Je ne suis plus certaine de vouloir me soustraire à ce cycle. Pourquoi rendre mon corps inutilisable en l'annihilant ? J'ai longtemps pensé que la tombe était une forme d'orgueil. Mais être brûlé, c'est aussi refuser de devenir une substance nourricière, déjouer la décomposition, exaucer son résultat, n'être plus rien, en refusant son processus. Mais quand je pense à vous, impossible encore de vous faire coïncider avec les corps de Salimane. Il est trop tôt pour accepter que des plantes poussent depuis la peau de votre ventre. Je vous laisse intacte. À ces photographies, je préfère les gravures de Jan-Stefan von Kalkar qui accompagnent la fabrique du corps humain de Vézal, cet écorché mélancolique pelé en plusieurs stations dans un paysage padouan. Il a les bras levés, index pointé vers le ciel, ses jambes sont fléchies dans l'élan de la marche. Sur l'une des planches, il est appuyé contre un mur. À ses pieds, un morceau de cage thoracique à la forme d'un papillon. Il ne nous regarde jamais, mais il a encore un regard, qu'il jette parfois vers le ciel ou vers le sol, inquiet et grave. C'est la mort en marche, debout et effective, le corps qui tombe par étapes, comme un slow motion de décomposition, mais sans l'horreur du pourrissement. Ce corps devient sec, sans nous imposer son flétrissement. Vézal avait senti que cette esthétisation de la mort n'en rendait pas impossible l'étude, mais soutenable. Et pourquoi pas, après tout, imaginer votre crâne, vos côtes. C'est ce qui vous fonde. Comme les murs, les poutres portent les maisons, comme la quille et les flancs des navires, écrit aussi Vézal. Les squelettes de son traité sont encore conscients. Ils ont l'air absorbés et sérieux, comme s'ils avaient la chance de penser leurs conditions. Cette aventure du squelette qui ne commence que quand on est mort et que l'on se change en pierre. Dans les semaines qui suivent mon retour de Bâle et la chute du cyprès, alors que les morts deviennent de plus en plus nombreux, je suis gagnée par une lenteur inédite. Tous mes gestes, même les plus simples, me prennent une énergie démesurée. Ma vie se réduit à quelques activités répétitives. J'observe au ralenti ce que produit le deuil en moi. J'apprends son pouvoir de transformation, sa violence, mais aussi ce qu'il me donne. Il y a l'épuisement et la tristesse, et en même temps le désir et le courage. Dans ces moments, j'ai pris des décisions qui m'auraient semblé impossibles quelques mois plus tôt. Les morts m'ont offert ça, la capacité de reconfigurer la vie que je m'étais construite pour la rendre plus proche de celle que je me souhaitais. Ils m'ont aimée jusque-là. Je suis reconnaissante de ce qu'ils me donnent. Pour leur rendre au moins un peu, je veux leur faire place, ne pas me détourner, et puisque la mort est leur nouvel état, je dois la découvrir. Feuilleter des livres sur l'histoire de la médecine, appréhender son iconographie, m'a aidée à ne pas dévier. Je voulais me confronter à ce qui s'était passé, mais doucement. C'est pour ça que le livre de Salimane n'est pas pour moi. Il me coince dans un face-à-face cruel duquel je ne retire rien. Je compile d'autres images, des photographies, des gravures, des tableaux, des détails de sculptures et de fresques. Le week-end, j'arpente les brocantes à la recherche de cartes postales anciennes. Je fouille dans des boîtes poussiéreuses et je repars avec des descentes de croix, des statues aux yeux fermés, des gisants, des crânes d'animaux, des dissections de Rembrandt ou de Gérard David. Elles viennent rejoindre ce que j'ai déjà imprimé et collé sur le mur à droite de mon bureau, les écorchés, la main d'Anna Bertha Röntgen, le squelette de Jacob Carrère, un autoportrait de Francesca Woodman, un portrait du Fayoum, ma maison et son cyprès, le corps fleuri d'Anna Mendieta. Ce n'est pas un geste décoratif, c'est le déploiement de ma tête. Quand mes proches viennent me voir, ils s'inquiètent de cette étrange collection. « Tu devrais mettre d'autres images chez toi, » disent-ils. « Comment veux-tu aller mieux entouré de tout ça ?» Mais je ne me complais pas dans le sordide, je le combats. Ces images me permettent d'apprivoiser ce que je n'ai pas pu voir. Moment volé ou insoutenable, elles me le représentent pour que je puisse assimiler cette incursion de la mort. Voir et savoir se superposent et je ne veux pas me défendre par le refus. En détournant les yeux de ce qui s'est passé, ce serait trop facile. Je veux comprendre. Et les images font ça pour moi. Je dénombre deux morts déjà, mais ça n'est pas fini. Le scénario se répète, un appel, un message, et vous êtes trois, quatre, puis cinq. Combien encore? Les annonces se multiplient et ça n'arrive pas qu'à moi. Mes amis aussi sont brutalement exposés à la mort. Une fois qu'elle a surgi, il semble impossible de m'en débarrasser. Pour chacun d'entre vous, des images supplémentaires, qui vous signifient sans jamais vous représenter, apparaissent. Je cherche partout les ressources qui me manquent. La littérature, elle aussi, me réconforte. Il y a Michaud et son désespoir étonné. « Dis, est-ce qu'on ne se rencontrera vraiment plus jamais ?» demande-t-il à sa femme qui a brûlé vive, et je l'entends dire ça avec la candeur et la désolation des tristesses d'enfant. Je récite souvent ce vers d'Éluard pour Nuche foudroyée à 40 ans par une attaque cérébrale. « Mon amour est de plus en plus concret et il est en terre. » Rien de plus matériel, en effet, qu'un cadavre qui rabat sur un amour idéal sa réalité crue et affreuse, qui fait de vous des objets disparus ou disloqués. Bizarrement, vous n'avez jamais eu autant de corps que dans votre mort. La liste des auteurs auprès de qui je cherche de l'aide pourrait être longue. Je ne crois à aucune vie éternelle, nous ne nous retrouverons jamais nulle part, et c'est précisément ce défoncement du futur qu'aucun travail de deuil ne remblaiera en quoi consiste la tristesse, cette tristesse qui disparaîtra à son tour avec moi, écrit de Guy. Défoncement, oui. Je lis aussi Quelque chose noir de Roubaud, la douleur sans effet, au plus juste. Disparaissant, tu n'as pas été mise ailleurs. Tu t'es dilué dans ce minime espace, tu t'es enfoui dans ce minime espace, il t'a absorbé. Ces phrases sont une litanie qui m'accompagne. Même si je ne pleure pas comme eux la femme que j'aime, tous ces écrivains me prêtent leurs mots en attendant que je trouve les miens. Je me dis aussi que ma tristesse est à votre mesure, qu'une mort qu'on ne déplore pas, c'est une vie qui aurait été ignorée ou minorée. Mon état est une manière de vous célébrer, de reconnaître que tous nos moments partagés auront quand même été quelque chose. Butler le dit. Sans la possibilité du deuil, il n'y a pas de vie, ou plutôt il y a quelque chose qui vit, qui est autre chose qu'une vie. Et cette phrase m'aide, ou au moins elle justifie ma peine. Pour vous continuer, il faut d'abord réaliser à quel point vous comptiez. J'essaye alors de ne pas tomber avec vous. J'y arrive plutôt bien. Les mois passent, je regarde mes images, la colère, le chagrin ne s'amenuisent pas, mais ils parviennent à exister dans une forme de silence, d'acquiescement. Vos morts sont des certitudes avec lesquelles je ne négocie pas. J'avance hébétée dans une plaine égale et grise sans attendre qu'elle se termine. Cette géographie plate du deuil, je ne la raconterai pas plus.